de 37% du jumeau. Apollo est une application qui met en relation l'écosystème de la santé. Elle connaît aussi bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc Apollo permet de créer une base de données fiable, à jour, des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, ça pour nous facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des seuls en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même, lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, comment on le dit en fait en français, ça permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la campagne.
Mais ça coûte?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 francs. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Women Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte, à compter de janvier 2020, pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards à l'horizon de 2050, c'est-à-dire on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ces malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire qu'il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte bien sûr et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur pendant le quotidien de la grossesse. Elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB Systems. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'espèce locale qui est en cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais de solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, the measure of a man is what he has with the power. Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. J'ai tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense que en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moindre coût. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien se mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons fait Papalo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 dollars par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée au problème africain.
Yes. Et vous voulez que ça marche?
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse?
Yes, yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique, c'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, l'assouplissement progressif des mesures de confinement en Afrique. La vie après le confinement. Les amateurs de restaurants à Abidjan célèbrent la fin des restrictions. De plus, mauvaise haleine derrière le masque. Un expert partage quelques conseils pour une haleine plus saine et agréable. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. À travers le monde, les gouvernements commencent à assouplir progressivement les restrictions imposées afin d'arrêter la propagation de la pandémie de COVID-19. Certaines autorités s'inquiètent de l'impact de ces mesures sur l'économie. À Accra, la capitale du Ghana, les restrictions ont été levées après 3 semaines. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et Djibouti ont également assoupli leurs restrictions. Cependant, les experts avertissent qu'avec l'augmentation des cas de coronavirus sur le continent, il serait trop tôt pour le déconfinement. Partons à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où les populations peuvent désormais se retrouver dans les restaurants pour un repas grâce à la fin du confinement.
Les restaurants et maquis d'Abidjan sont autorisés à rouvrir depuis le 15 mai dernier. Pendant 52 jours, ils ont dû fermer pour se conformer à une série de mesures prises par les autorités pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. De nombreux Abidjanais sont soulagés.
Je suis heureuse parce que les mesures sont allégées un peu. Ça nous permet aussi de pouvoir être en contact avec nos amis et pouvoir restaurer les liens qui étaient.
Mais il faudra sans doute du temps pour que les Abidjanais renouent avec leurs habitudes avant le confinement. Les restaurateurs observent pour le regretter que leurs consommateurs traînent encore les pieds.
On a arrêté, mais c'est comme si on jetait aussi la clé parce que on n'a pas de stock. Chaque matin quand je viens, je fais un peu de marché pour qu'on puisse reprendre. J'ai commencé le lundi. On a dû reprendre le vendredi, mais je ne pouvais pas parce qu'il faut désinfecter le coin, ça coûte de l'argent, c'est ce qu'on a pu faire. Et c'est le lundi que j'ai ouvert, mais c'est difficile quoi, c'est difficile. Là. On n'a vraiment pas les moyens pour pouvoir redémarrer.
Pendant les 52 jours de confinement, certains restaurants ont subi de lourdes pertes, les privant de fonds nécessaires pour poursuivre leur activité. Cela ne sera pas sans conséquence pour la suite.
Ça fait du bien parce que être comprimé, c'est pas très agréable. C'est vraiment pas agréable. Et quand on sort un peu, on trouve tout le monde là dans la gaieté. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
Le feu vert donné aux restaurateurs est assorti de conditions. Ils devront continuer d'appliquer des mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Par exemple, respecter la distanciation physique et donc séparer les tables et accueillir moins de monde, ce qui aura un impact sur leurs revenus.
Direction à présent au Burkina Faso, où les mesures de restriction ont été levées. Colim Bambi Civil est coiffeur à Ouagadougou et peine à relancer son entreprise après le déconfinement. Il invite ses clients à reprendre leurs habitudes.
Je m'appelle Colim Bambi à l'état civil, Colim Bambi Joël. Maintenant, mon nom d'artiste, c'est Jojo Kassamoto, puisque je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur, cinéaste, comédien, ingénieur de son. Voilà, je suis barbier, voilà, ça c'est le vrai thème barbier, voilà. Voilà, vraiment, il y a eu trop d'impact parce que les gens étaient méfiants. Les gens, ils ne voulaient pas vraiment se coiffer parce que, compte tenu de la maladie, ils avaient peur de l'hygiène, quoi. Parce qu'il y a, peut-être il y a d'autres points, ils pensaient que, bon, le coiffeur n'est pas bien protégé et puis il ne s'infecte pas ses appareils, quoi. Voilà, ça, ils ont raison, quoi. Ça, ils ont vraiment raison. Bon, avant, on gagnait bien. Avant, on gagnait très bien. Avant, tu peux sauter avec peut-être une somme, peut-être 5 000, 10 000, mais maintenant, là. Ça ne marche plus, hein. Maintenant il n'y a rien, tu peux rentrer à la maison, c'est rien, même pas 100 francs, parce que les gens ne viennent pas, quoi. Donc c'est vraiment, c'était difficile. Mais maintenant je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller. Il y a eu aussi le couvre-feu, on rentre très tôt et souvent, bon, je viens ici dans mon petit business, vous rentrez, il n'y a personne ne vient parce que les gens n'ont pas confiance et puis voilà, quoi. Non, vraiment, c'était pas facile. J'ai eau de Javel, j'ai même alcool pur, 100% pur, c'est ça que j'utilise pour, et puis j'ai le gant, et puis j'ai le cache-nez, c'est ça que j'utilise avant de commencer à coiffer. Je désinfecte d'abord les appareils, et puis je désinfecte d'abord même la chaise, là où les clients s'asseyent, et puis voilà, je commence. Ils n'ont qu'à venir, c'est tout. Quoi. Il y a mesure de sécurité ici. Quoi. Donc j'attends. Donc vraiment, il faut qu'ils viennent parce qu'il y a la sécurité ici. Parce que bon, ici, on s'assoit un mètre. Ça veut dire plus de 5 clients, je ne reçois pas. Ça veut dire les 3 dedans, il y a un qui doit rester dehors.
Vu l'augmentation des infections à coronavirus en Afrique, pensez-vous qu'il est trop tôt pour certains pays africains de mettre fin au confinement, notamment dans votre pays? Voici certaines de vos réactions sur Facebook. Josué Motosia écrit « En RDC, pour le moment, c'est une mauvaise décision parce que le nombre de nouveaux cas augmente chaque jour. » Alphonse Mbouaki répond: moi, je pense que les réalités socio-économiques de mon pays diffèrent de celles de l'Occident. Chez moi, en RDC, les gens vivent au quotidien, au jour le jour. Si on ne sort pas, on n'a pas de quoi manger, d'où la nécessité du déconfinement. Et enfin, André Katulouba répond: prenons d'abord notre mal en patience. Je lance un appel à tous les Africains au respect strict des mesures barrières et celles d'hygiène pour nous protéger et protéger les autres. Ensemble, nous pouvons faire face à cette pandémie. Les observateurs estiment que la levée des restrictions liées au confinement pourrait être prématurée dans certains pays, car la pandémie est toujours en cours. Quel est donc le meilleur moment pour le déconfinement? Amanda McLeland, première vice-présidente chez Viral Strategies, répond à la question.
Each country has to decide what success looks like for them.
Chaque pays doit décider à quoi ressemble le succès pour lui. Donc, vous savez, il y a une citation célèbre qui dit que si vous ne savez pas où vous allez, et les pays doivent donc décider à quoi ressemble le succès pour eux. Est-ce une faible charge de travail? Est-ce un faible taux de mortalité ou accepte-t-il certains cas ou certains décès? Il faut qu'ils tiennent compte de l'aspect économique et sécuritaire. Chaque pays devra trouver cet équilibre pour lui-même. L'un des principaux problèmes auxquels, selon nous, il faudrait penser, c'est le maintien des autres services de santé. Vous pouvez arrêter le Covid, mais le nombre de décès dus au paludisme, le sida ou la tuberculose peuvent augmenter. La première recommandation est de comprendre les données dans votre contexte, de travailler avec vos communautés et les parties prenantes pour adapter les mesures. Ce que nous appelons imiter, le simple fait de voir ce que la Chine a fait et le transplanter dans un autre pays serait un désastre. Vous devez regarder ce qui fonctionne et la théorie derrière cela, puis voir comment cela s'applique à votre contexte. Et une partie de la recommandation est l'engagement communautaire, travailler avec les parties prenantes pour ajuster ces mesures à votre contexte, réduire vraiment l'impact économique et social sur les personnes, tout en bénéficiant de la réduction de la transmission. Je pense que la deuxième et très importante recommandation est que nous pouvons réduire les restrictions. Nous pouvons déconfiner et retourner à l'extérieur si nous avons suivi des contacts et des tests des laboratoires adéquats, et beaucoup de pays africains font de gros efforts pour augmenter la capacité de leurs laboratoires.
L'utilisation de masques est en cours dans plusieurs pays à travers le monde pour une protection contre le nouveau coronavirus. Mais porter un masque peut révéler une mauvaise haleine personnelle. La mauvaise haleine ou halitose est caractérisée par une odeur désagréable de la bouche. Une mauvaise hygiène dentaire peut en être la cause, mais elle peut être aussi le signe d'autres problèmes de santé. Selon l'Association internationale pour la recherche sur l'halitose, près de 8% de la population mondiale souffre d'halitose ou de mauvaise haleine. Le docteur Nami Patel est dentiste et auteur à San Francisco, en Californie. Elle partage quelques conseils pour lutter contre l'halitose.
La mauvaise haleine, c'est une mauvaise odeur qui se dégage quand nous expirons et cela peut avoir diverses causes. Cela peut être l'odeur que l'on sent le matin quand on n'a pas dormi toute la nuit et qu'on n'a rien mangé. Cela peut être dû aussi au reflux acide et le fait de dormir sans se brosser les dents. Premièrement, il faut se procurer une brosse à dents électrique. Deuxièmement, c'est d'avoir un jet dentaire. Je suis un grand fan du jet dentaire. Il soutient l'eau entre les dents et élimine le tartre. Ce que je recommande aussi, c'est de prendre une cuillère à café de peroxyde et de le mettre dans l'eau. Il nettoie entre les dents. Nous avons également constaté que de nombreuses bactéries responsables de la mauvaise haleine sont anaérobies, qu'elles ne survivent pas à l'oxygène et que le peroxyde contient de l'oxygène. C'est la lecture, ce qui serait vraiment bien. Il y a donc des choses faciles que vous pouvez faire à l'instant qui vous aideront à vous débarrasser des bactéries et à vous donner une haleine fraîche.
Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekouchek Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sekouchek Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Lénore Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiré.